RFI, grand reportage, Xavier Besson.
Grand reportage aujourd'hui au Japon. Plus de 4 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la situation est loin d'être revenue à la normale. La centrale dévastée continue de contaminer l'environnement et notamment les nappes phréatiques. Les 120 000 personnes, c'est le chiffre officiel, qui ont dû évacuer les zones les plus irradiées, ne peuvent toujours pas rentrer chez elles à cause de la radioactivité élevée. Mais cela n'empêche pas le gouvernement japonais, favorable à l'énergie nucléaire, de multiplier les pressions pour inciter ces déplacés à retourner vivre en zone contaminée. Une politique très critiquée en raison, on le comprend, des risques sanitaires. Les déplacés de Fukushima contraints au retour en zone contaminée. Un grand reportage signé Frédéric Ojardias.
Konnichiwa. Shire shimasu. Ii desu ka?
Konnichiwa.
Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Yoshida Kuniyoshi. Je vivais à Okuma, dans la préfecture de Fukushima. J'ai 34 ans et je suis le rédacteur en chef d'un magazine à Fukushima. Et je dirige une école de soutien scolaire pour enfants.
I run a private school for children. 12 of March.
Le 12 mars 2011, au lendemain de l'explosion, les haut-parleurs de notre ville nous ont avertis que les radiations causées par la centrale nucléaire menaçaient notre ville. Nous avons tous fui. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour évacuer. Il a fallu se dépêcher. Mes parents m'ont dit « Partons à bord des camions de l'armée ».
Yoshida Kuniyoshi vivait à Okuma, 12 000 habitants, tout près de la centrale de Fukushima. Après l'ordre d'évacuation, tous ont déménagé, mairie et fonctionnaires inclus, à Aitsu Wakamatsu, petite ville située à 100 km du lieu de l'accident. Des milliers de logements provisoires y ont été construits en urgence. Et c'est dans l'un de ces deux pièces minuscules que vivent monsieur et madame Nakano, 67 et 66 ans.
Konnichiwa.
Quand nous avons évacué, nous avons tout laissé derrière nous. Nous n'avions que les vêtements que nous portions, de l'argent et nos permis de conduire. Je travaillais dans une maison de retraite, si bien que je n'avais que ma blouse d'infirmière. Tout ce que nous avons dans cette maison, nous l'avons acheté ensuite.
Dans le journal du jour, qui publie quotidiennement les taux de contamination de chaque village autour de la centrale, M. Nakano a tracé un point rouge devant le taux de radioactivité de sa maison abandonnée. 14 microsieverts par heure, un taux bien trop dangereux pour espérer un retour définitif. Le couple a cependant droit la journée à de courtes visites, pendant lesquelles il se couvre de protection anti-radiation de la tête aux pieds.
Notre dernière visite, c'était en décembre dernier. Nous y sommes allés pour l'anniversaire de la mort de mon père, pour une cérémonie et des prières. Nous rentrons chez nous de temps en temps, mais nous aimons de moins en moins y aller, parce que la seule chose qu'on peut y faire, c'est prier, laisser des fleurs et regarder la maison. C'est tout. La dernière fois, nous ne sommes restés que 20 minutes et puis nous sommes repartis. Nous n'avons rien à faire là-bas.
La plupart des évacués nucléaires ne font pas confiance aux mesures officielles de contamination. Beaucoup, comme Yoshida Kuniyoshi, possèdent donc leur propre compteur GGR, un instrument de mesure portable.
Si vous venez avec moi dans ma ville d'Okuma, vous vous sentirez très mal, vous aurez peur, parce que le compteur de radiation fera ce bruit. Je mesure à Okuma des doses allant de 3 à 100 microsieverts.
Est-ce que vous comptez rentrer chez vous dans le futur?
J'aimerais le savoir moi-même. Parce que nos indemnités seront bientôt coupées. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je reste vivre ici ou je retourne à Okuma? Je pense que le retour est impossible, parce que la radioactivité est forte et qu'il y a la centrale nucléaire juste à côté. Mon père, peut-être, a envie de rentrer, mais lui et ma mère ne rentreront pas non plus.
Retourner vivre à Fukushima ou recommencer sa vie ailleurs? La question divise la communauté des évacués, parfois jusqu'au sein même des familles. Madame Furukawa, assistante maternelle de 51 ans, a abandonné son village avec son mari et ses trois enfants et elle refuse de retourner y vivre.
Moi-même, cela ne me dérangerait pas de rentrer étant donné mon âge. Je ne crois pas que cela changera grand-chose. Mais si je retourne chez moi, alors mes enfants seront obligés de venir pour me rendre visite ou pour prendre soin de moi. Et cela, je le refuse. Je ne veux pas qu'ils soient exposés à la radioactivité.
Et votre mari, est-ce qu'il veut rentrer?
Mon mari non plus ne veut pas. Il suit mon opinion. Je vois autour de moi de nombreux couples qui divorcent ou qui se séparent. Je connais même une femme dont le mari a fait une dépression et a fini par mourir.
Les déplacés de Fukushima sont soumis à des pressions croissantes de leur gouvernement pour retourner vivre en zone contaminée malgré les risques. Les autorités mettent en place une stratégie de normalisation. Elles veulent relancer une partie des 48 réacteurs nucléaires du pays. Et pour cela, il faut donner l'impression d'un retour à la normale et ramener les évacués chez eux. La fin des indemnités est ainsi programmée pour 2017. Les autorités mènent aussi des opérations de décontamination des zones abandonnées, des opérations coûteuses à l'efficacité très critiquée. Yann Van de Putte de l'ONG Greenpeace à Tokyo.
En pratique, c'est impossible de décontaminer les forêts. Ils décontaminent les routes, les maisons, et c'est un travail difficile. Ce n'est pas facile d'enlever le césium qui s'accroche. Ils nettoient environ 10 à 15 mètres autour des maisons, ce qui veut dire, en pratique, qu'ils enlèvent environ 5 cm de terre qu'ils mettent dans des sacs poubelles. Ils font la même chose pour les rizières. Au final, vous obtenez une soi-disant zone décontaminée où plus de 90% reste contaminée. Ce n'est pas un endroit où vous voulez que vos enfants jouent dans la nature. Ce n'est pas responsable de forcer les gens à retourner y vivre. Mais la position actuelle du gouvernement de Shinzo Abe, c'est de couper toutes les indemnités d'ici 2017 au plus tard.
La région n'est pas riche, privée d'aide financière. Beaucoup d'évacués qui ont perdu leurs terres et leurs maisons n'auront pas les moyens de s'installer ailleurs. D'autres mesures relèvent de la manipulation psychologique et cherchent par exemple à susciter un sentiment de nostalgie par rapport au territoire perdu, ce qu'explique Cécile Asanuma-Brice, directrice adjointe du bureau du CNRS à Tokyo.
C'est du personnel de la préfecture de Fukushima, des psychologues, qui allaient rencontrer les personnes qui s'étaient réfugiées sur leur lieu de refuge en proposant pour leurs enfants d'organiser des ateliers avec les anciennes classes de Fukushima en leur disant oui, ton petit, il aimerait bien voir ses anciens copains, n'est-ce pas? Donc on va organiser un atelier tous ensemble et on pourra tous se revoir, ce sera bien. Alors que ces enfants, ces mères, etc., commençaient enfin à s'établir et à se réintégrer dans leur lieu de refuge, on les replonge à nouveau avec leurs anciennes connaissances, leurs anciens amis. Et là, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Eh bien, par exemple, on les fait cuisiner tous ensemble. Et puis, tout en cuisinant, on discute. Donc, on dit aux petits-enfants, tu vois, ces carottes, elles viennent du jardin de ton grand-père, ces navets, de celui de ta tante. Et puis, dans cette région-là où était ta tante, y a-t-elle légende, est-ce que tu connais, ce qui correspondra à nos chevaliers ou je sais pas quoi, ce qui en fait quelque chose d'assez fabuleux. C'est comme ça que ça marche, la manipulation psychologique. Et puis le gamin, quand il rentre chez lui, il dit, mais maman, reste chez lui sur son lieu de refuge, il dit, maman, mais quand est-ce qu'on rentre à la maison? Mais cette fois, la maison, c'est plus le lieu de refuge, c'est l'ancien lieu d'habitation à Fukushima. Et donc ça génère une plaie ouverte et les gens ne peuvent jamais s'établir. Et ça, psychologiquement, c'est absolument invivable.
En dépit des vastes opérations de décontamination, les taux de radiation restent élevés. Les autorités ont donc choisi d'accroître le seuil légal de radioactivité admissible.
Le discours aujourd'hui tenu au Japon par le gouvernement, c'est de dire en deçà de 100 millisieverts, pas de conséquences sanitaires. Donc, on peut faire passer la barre pour la population à 20 millisieverts par personne, ce qui est considérable. Je vous rappelle que c'est donc la norme pour les travailleurs du nucléaire en France. Hein. Donc, sauf que là, elle est appliquée à des enfants, à des nouveaux-nés, à tout le monde. Hein. Donc, il est évident que ça va avoir des conséquences énormes.
À Tchernobyl, la hausse des cancers de la thyroïde chez les enfants avait commencé à être observée 5 ans après l'explosion de la centrale. À Fukushima, seulement 4 ans après la catastrophe, des études montrent déjà une augmentation anormale de ces cancers. Et la centrale dévastée de Fukushima continue de rejeter des particules radioactives, notamment dans les nappes phréatiques. Tous les jours, 300 tonnes d'eau sont injectées pour refroidir les barres de combustible fondu, une eau contaminée qu'il faut ensuite entreposer dans des réservoirs. Sean Burney est un autre expert nucléaire de Greenpeace en visite à Tokyo.
It's an ongoing nuclear disaster.
C'est un désastre nucléaire qui est toujours en cours avec 3 réacteurs qui ont fondu. Les défis affrontés par l'exploitant Tokyo Electric Power Company sont sans précédent dans l'histoire du nucléaire. Concernant le démantèlement de la centrale, les autorités ont prévu un chantier de 30 à 40 ans, soit une fin prévue pour 2045. Mais je pense que personne n'y croit. Si vous regardez les précédentes expériences de démantèlement dans le monde, cela prend en moyenne de 40 à 60 ans pour un réacteur qui n'a pas fondu. Ici, à Fukushima, il y en a 3, ainsi que des milliers de tonnes d'eau contaminées. En mars, une analyse plutôt honnête a été faite par un haut dirigeant de TEPCO qui a dit que la technologie nécessaire n'avait pas encore été inventée. Par exemple, pour retirer le combustible fondu, il a même spéculé sur un chantier de 200 ans. Personne ne sait.
La centrale est fragile. En cas de nouveaux séismes trop puissants, de nouveaux dégagements radioactifs sont possibles, ce qui accroît l'inquiétude des évacués. Madame Kowata, 59 ans, vient aussi de la ville désertée d'Okuma. Elle refuse de rentrer chez elle et a décidé d'utiliser l'arme légale. Elle intente un procès contre sa mairie.
Les animaux sauvages ont envahi ma maison. Le plafond est pourri, le tatami aussi, je n'ai pas envie de rentrer. Je soupçonne même que quelqu'un vit chez moi, sans doute un ouvrier en charge de la décontamination. J'ai retrouvé des baguettes utilisées, des bols de nouilles instantanées. Je lui ai même laissé un message pour lui dire « Cette maison est dangereuse, vous allez tomber malade ». Notre mère veut que l'on revienne chez nous d'ici 3 ans. Mais même si nos maisons sont soi-disant décontaminées, tous les terrains autour sont toujours irradiés. Par exemple, vous pouvez passer devant une maison, mesurer une radioactivité de 0,5 microsieverts par heure, mais derrière la même habitation, le taux sera de 8 microsieverts. Pas un seul jeune ne veut rentrer. Les jeunes générations font des projets pour refaire leur vie dans d'autres endroits.
Les Watanabe, un couple d'agriculteurs bio de 62 et 65 ans, aimeraient bien refaire leur vie ailleurs. Mais les dédommagements que leur propose leur gouvernement ne suffiront pas pour acheter une autre ferme et de nouveaux équipements. Le couple travaille dur pour s'en sortir, mais il reste très amer.
Avant la catastrophe, nous nous inquiétions un peu de la possibilité d'un accident nucléaire. Mais jamais nous n'aurions pensé que cela puisse être si grave. Quand nous avons été évacués, nous pensions être de retour 3 jours plus tard.
Tous ces experts de l'industrie nucléaire nous répétaient en permanence « L'énergie nucléaire est une énergie sûre. » Sûre, sûre, sûre. On était tellement habitués à entendre ce mot.
Nous allons accueillir les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Tout le monde va alors complètement oublier la réalité de Fukushima. Nous, nous aimerions que le plus de monde possible comprenne ce qui se passe ici.
Au Au moment du départ, Yoshida Kuniyoshi nous a lancé l'avertissement suivant.
Ce que j'aimerais dire au monde entier, c'est que tout ce que vous aimez, vos villes, les mémoires que vous chérissez, votre vie, ce que vous ont légué vos ancêtres, votre communauté, vos amis, les centrales nucléaires peuvent tout détruire d'un seul coup.
Your memory, your communities, your friends, all of
Les déplacés de Fukushima contraints au retour en zone contaminée, un grand reportage de Frédéric Ojardias, réalisation Swell Kedir.
Frédéric Ojardias, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce reportage. Première question, où en sont les opérations de cette décontamination massive mise en œuvre par les autorités japonaises ?
Eh bien, c'est la plus grande entreprise de décontamination radioactive jamais tentée. Le gouvernement a en juin a promis d'accélérer ses efforts pour ouvrir 70% des zones évacuées d'ici 2017. Chaque jour, environ 12 000 ouvriers enlèvent les couches superficielles de terre dans les rizières et autour des maisons. Ces ouvriers ont déjà accumulé 30 millions de tonnes de déchets faiblement radioactifs, ce qui pose ensuite le problème de leur stockage. Ces opérations sont très critiquées par les déplacés nucléaires que j'ai rencontrés. Tout d'abord parce qu'elles ne permettent pas vraiment de décontaminer les zones évacuées. On obtient en fait des îlots et des couloirs moins radioactif dans un environnement qui reste irradié. Ensuite, parce que ces opérations coûtent très cher, le gouvernement a déjà dépensé 12 milliards d'euros pour tenter de nettoyer ces territoires. Les déplacés qui s'estiment mal dédommagés et qui vont bientôt cesser de recevoir leurs indemnités souhaiteraient que cette fortune serve plutôt à les aider à refaire leur vie ailleurs.
Et qui sont justement ces ouvriers qui travaillent au nettoyage des zones contaminées et au démantèlement de la centrale, Frédéric ?
Alors, dans la centrale même de Fukushima, entre 6 000 et 7 000 ouvriers travaillent tous les jours et l'exploitant TEPCO fait face à un énorme problème de manque de main-d'œuvre parce qu'au début, ces travailleurs étaient des employés expérimentés qui ont atteint la dose maximale d'irradiation permise et qui doivent être remplacés. TEPCO a donc recours à des sous-traitants et à toute une ribambelle d'entreprises intermédiaires et en bas de la chaîne, ce sont les Yakuza, les gangsters japonais qui recrutent dans la rue, notamment des sans-abri. Ces ouvriers ont de mauvais salaires et très peu de protection sociale.
Quelle est, Frédéric, la situation dans les autres centrales japonaises ? Des réacteurs ont-ils, par exemple, pu redémarrer ?
Alors, le Japon a durci ses normes de sécurité et les 48 réacteurs nucléaires que compte le pays ont tous été à l'arrêt pendant presque 2 ans, jusqu'au 11 août dernier, quand la centrale de Sendai sur l'île de Kyushu a été la première à reprendre ses opérations. Le gouvernement associé au puissant lobby nucléaire avance l'argument économique. Avant l'explosion de Fukushima, 28% de l'électricité japonaise venait de l'atome. L'arrêt de tous les réacteurs coûte au Japon 100 millions de dollars par jour et oblige le pays à augmenter ses importations de gaz et de pétrole. Mais la majorité des Japonais et puis les populations autour des centrales restent opposées au nucléaire. Le gouvernement assure, lui, que les leçons de Fukushima ont été retenues et il veut donner cette impression d'un retour à la normale. C'est ce qui explique cette politique qui pousse les évacués à retourner vivre dans les zones contaminées.
Frédéric Ojardias, merci. Votre grand reportage sur les déplacés de Fukushima, on peut le retrouver sur notre site internet sur rfi.fr. Merci.
Des musiques noires.
Le saxophone.